on accueille l'ADEME en la personne de Dominique. J'ai oublié votre nom de famille par contre.
Narbou.
Narbou, voilà. Merci de nous rejoindre. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous travaillez pour l'ADEME, l'association départementale d'économie montagnarde. On va commencer par un petit rappel de ce qu'est cet organisme, s'il vous plaît.
Oui, l'Association départementale d'économie montagnarde, c'est l'ADEME sans E.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y en a une avec un E maintenant.
Voilà, bon. C'est ça, il y a l'ADEME l'énergie.
Qui concerne l'énergie.
Donc l'ADEME, c'est une association loi 1901 qui date de 1976, qui est composée... C'est une association un petit peu particulière dans le sens où elle regroupe que des associations ou des structures elles-mêmes. Elle regroupe à la fois la profession agricole, les territoires, le syndicalisme agricole, toutes tendances confondues, les forestiers, qu'ils soient privés ou d'État, la MSA, le Crédit Agricole, la formation avec les CFPPA, les chasseurs, voilà. Et dans les territoires, il y a bien sûr les parcs naturels, les communautés de communes, comme par exemple le Diwa, le Vercors, voilà. Et puis, il y a bien sûr aussi les groupements pastoraux, qui sont les groupes d'éleveurs, les associations foncières pastorales, qui sont des associations de propriétaires. Il y a aussi le Conseil général, départemental, pardon, la DDT, l'État, dans la profession, la Chambre d'agriculture, tous ces organismes du monde agricole. Et ça fait normalement une trentaine de membres. Et depuis bientôt 30 ans, l'ADEME a choisi de travailler sur le pastoralisme, entre autres le pastoralisme collectif, puisque l'ADEME met en œuvre trois outils d'une loi qui s'appelle la loi pastorale, qui porte bien son nom, et qui est de 1972. Et ces trois outils sont les groupements pastoraux, les associations foncières pastorales et les conventions pluriannuelles de pâturage qui lient les propriétaires aux éleveurs utilisateurs. Mmh. Voilà.
Dans le cadre de la fête de la transhumance, pour être très concret, on voit passer un troupeau qui va pâturer par exemple la station du col de Rousset. Ceci est en partie départemental, plus d'autres privés peut-être. C'est donc de rassembler ces personnes et permettre à l'éleveur d'être assuré de pâturer dans ce secteur chaque année.
Alors,
avec des règles.
Le travail qu'effectue l'ADEME dans la mise en œuvre de cette pratique pastorale, il est sur plusieurs niveaux. Le premier niveau, pour qu'un troupeau passe, et là vous avez la chance d'avoir le troupeau du groupement pastoral de Pré-Perret qui propose son troupeau pour la montée au col du Rousset, eh bien, la première des choses a été cette création du groupement pastoral, c'est l'animation du fonctionnement du groupement pastoral, c'est après... la convention qui va lier les propriétaires de la zone utilisée, hein, et c'est des conventions qui sont au minimum de 5 ans et qui permettent à l'éleveur, au groupement pastoral, de savoir à quel moment il monte, ce qu'il a le droit de faire, comment ça se passe. Et ces conventions, elles ont la particularité de n'être... Elles ont une période d'utilisation, donc ça démarre en général fin mai jusqu'à octobre. Et pendant les autres parties de l'année, le propriétaire peut louer les terrains pour d'autres occupations. Alors, dans le cas de celle de Pré-Perret, bien sûr, ce n'est pas, il n'y a pas de ski réel, il n'y a pas de station, il n'y a pas d'autres activités, mais c'est une des particularités de cette convention. De ces conventions qui sont très adaptées à l'utilisation pastorale et à l'utilisation partagée de ces espaces, puisque forcément, ces espaces, eh bien, il y a beaucoup de multi-usages. Il peut y avoir des randonneurs, il peut y avoir de la chasse, il peut y avoir de la cueillette de champignons, il peut y avoir des stations de ski, et voilà. Et donc, les éleveurs, au milieu de tout ça, font leur chemin et font pâturer leur troupeau.
Il y a aussi des règles en général d'utilisation. Je pense par exemple à une qui se fait bien, celle de retirer un peu tous les bois morts qui traînent sur ces secteurs. Quand on vient pâturer, voilà, les bergers ont tendance à faire ce nettoyage. Ça fait partie de règles qui pourraient être notées dans des conventions. Ou c'est un
oui,
usage.
Dans les conventions, on peut, par exemple, donner l'autorisation aux éleveurs de mettre ce type de clôture, donner l'autorisation aux éleveurs de prélever le bois pour le chauffage du berger. Voilà, c'est très, très, comment dire, c'est très particulier à chacune des conventions et au contexte qui est prévu, enfin, au contexte qui est sur ce site. Par exemple, on pourrait, dans une convention, avoir réservé une place pour une aire d'envol de parapente. On pourrait avoir...
site d'escalade.
Un site d'escalade, ouais. Quoi qu'en général, les brebis ne mangent pas dans les falaises. Mais
au pied.
Mais au pied, voilà. Au pied ou au sommet. Et voilà, ces conventions, elles sont très adaptées et malgré tout, il y a une priorité, c'est que toute autre activité ne doit pas poser problème à l'activité principale de la convention, qui est l'activité de pâturage de la zone.
Voilà, ça me fait penser par exemple au problème que certains randonneurs rencontrent par exemple en se promenant avec leurs propres chiens face à voilà aux patous qui sont, on le répète, nécessaires en ce moment pour protéger les troupeaux. L'ADEME a aussi un rôle d'animation et de toute cette vie pastorale, notamment au travers de la fête de la transhumance. Christian le citait tout à l'heure, vous faites partie du comité de pilotage. Quel est votre rôle dans ce comité de pilotage ?
Alors notre rôle dans ce comité de pilotage, ou notre intention en tout cas, c'est de faire en sorte que le message pastoral soit bien construit et soit donné au grand public qu'on rencontre dans la fête de la transhumance. Hein. C'est vraiment notre objectif principal, c'est de parler du pastoralisme et de parler de son actualité, de ne pas donner une image ancienne du pastoralisme. Le pastoralisme, c'est une activité moderne qui s'adapte à beaucoup de choses, qui a beaucoup, enfin, pour lesquelles des contraintes peuvent survenir. Et donc, on veut donner une image vraie du pastoralisme d'aujourd'hui, avec des éleveurs bien vivants. Vous allez pouvoir les écouter tout à l'heure, je crois que c'est à 15h30 au théâtre de Die, avec des éleveurs qui vont parler de leur paysage et de qu'est-ce qu'ils en font de leur paysage, comment ils le travaillent. Voilà, on souhaite que ce soit très, très vrai et faire approcher au grand public ces pratiques qui sont très, très méconnues.
Si on fait un parallèle avec l'histoire, Christian, puisque vous êtes encore là, en quoi le pastoralisme, selon vous, est devenu moderne et qu'est-ce qui diffère vraiment avec, par exemple, le siècle dernier ?
Mais moi, je ne dirais pas que le pastoralisme est devenu moderne. Je pense que, quelles que soient les époques, le pastoralisme était complètement intégré à la vie économique, à l'activité des hommes de toutes les époques. Et donc, l'ADEME a raison de dire que le pastoralisme, c'est quelque chose qui vit aujourd'hui comme ça a vécu par le passé. Bon, moi, j'ai une passion, c'est vrai, pour l'histoire, mais quand je ne veux pas parler de cette profession au passé, je sais qu'elle est actuelle, qu'elle est faite de gens qui vivent et qui travaillent au pays. Ce qui a changé, peut-être, ça a été évoqué ce matin par certains intervenants, notamment le président de l'ADEME, je crois, c'est que à une époque, le pastoralisme nourrissait localement, j'allais dire, les populations. Donc, on avait bien conscience de son intérêt, puisque c'est lui qui donnait à manger aux voisins, aux habitants des différents bourgs de la région ou autres. Avec l'évolution qu'a subie notre société depuis quelques années, la mondialisation quelque part, on a l'impression que la nourriture, c'est par un coup de baguette magique, elle arrive dans les supermarchés. Ce n'est pas le cas. Derrière toute production alimentaire qu'on va trouver dans un commerce, il y a des hommes et des femmes qui travaillent derrière. Et je pense que l'intérêt de manifestations comme la fête de la transhumance aujourd'hui, c'est de faire prendre conscience à l'ensemble des citoyens, qu'ils soient locaux ou qu'ils viennent d'autres régions, qu'il y a des savoir-faire. Ce savoir-faire, c'est pas seulement l'entretien des paysages ou autre, ça c'est quelque part annexe. Leur vrai métier, c'est de produire de la nourriture pour nourrir les populations. Et qui plus est, une nourriture de très très bonne qualité. Et c'est cet aspect-là qu'il faut valoriser et se poser les questions d'une meilleure valorisation à très court terme de ces produits-là, en favorisant notamment les circuits courts, les choses comme ça ou autre. Et dans le Diwa, me semble-t-il, ce message est quand même un message qui non seulement est bien perçu, mais qu'on arrive à mettre en place de façon très concrète. Pour ça, la filière s'est bien impliquée avec le soutien d'un certain nombre d'organisations extérieures et du monde politique en général, qui gèrent par exemple des organismes comme l'abattoir de Die, qui fonctionne au service, j'allais dire, d'une association, enfin d'une société d'éleveurs, pas seulement des moutonniers d'ailleurs, mais ça permet de produire des produits locaux, de les distribuer. Ça permet à la population de trouver de la nourriture de qualité et ça permet aussi une meilleure rémunération quelque part puisqu'on supprime les intermédiaires de toute la filière. Donc je pense que le pastoralisme, il est intéressant au niveau historique parce qu'il a participé à la construction de notre région et de la mentalité, de l'esprit d'Iwa qui est le nôtre aujourd'hui. Mais c'est surtout quelque chose qui est très actif aujourd'hui et qu'on a besoin de soutenir parce que sans le pastoralisme, c'est quelque part une sorte de désert qui s'installerait. Les pasteurs, les bergers, les agriculteurs d'une façon générale sont quelque part les derniers piliers qui restent dans beaucoup de villages. Donc il est important de vraiment tout faire, non seulement pour les maintenir, mais surtout d'avoir l'esprit de développer tout ça.
Ce que donc fait l'ADEME un petit peu au quotidien, Dominique, c'est bien cela, remotiver aussi les troupes, les maintenir.
Alors bien sûr que les activités de l'ADEME sont dans le sens de dynamiser les éleveurs et notre principale manière de les dynamiser, c'est de les faire travailler en collectif, hein, puisque quand on monte en montagne, on mélange des troupeaux, il faut s'entendre sur les conditions d'élevage, sur le choix du berger, sur tout un tas de choses, sur comment on va conduire le troupeau. Et voilà, ça fait partie de notre travail et on les aide aussi dans tout ce qui est de l'aménagement de ces espaces, parce que travailler en montagne, c'est quelque chose de difficile. Bien loger les bergers, voilà, il faut avoir des chalets qui correspondent. Voilà, c'est toute notre activité d'accompagnement de ces structures et des éleveurs pour leur faciliter la vie et pour que le travail se réalise correctement et qu'à la fin, on ait de beaux agneaux à manger.
On dit qu'une société qui ne sait plus d'où vient sa nourriture perd sa culture. En tout cas, la fête de la transhumance participe à la culture du pastoralisme. On accueille à l'antenne Jacques Planchon, conservateur du musée. Je pense que le micro est ouvert, ça devrait marcher.
Bonjour.
Ah, quelle belle voix. Toujours, il faut que je règle ça, sinon c'est trop Macha Béranger. On a parlé tout à l'heure un petit peu du musée de Die qui, ce matin, visiblement a cartonné. Hein, avec la pluie, c'était plein, blindé.
En toute humilité, quand il pleut, un musée a tendance à cartonner. Oui, cet aspect culturel est beaucoup poussé par le climat. Étonnamment.
Ah bon, bah alors c'est nul comme question. Donc ça a marché comme un jour de pluie. Ceci dit, c'était quand même la fête de la transhumance. Il y a un autre public plus dense.
Bien sûr, la fête de la transhumance amène évidemment un public qui est à la fois un public touristique, un public festif, mais qui est aussi un public qui s'intéresse à ce genre de problématiques et qui n'hésite pas à aussi jeter un petit regard sur le passé. Alors je parle moins d'un passé récent sur l'histoire de la transhumance. Bien que je me souviens avoir eu quelques anecdotes de personnes qui étaient extrêmement émues quand la transhumance a redémarré dans le Diwa, quand de nouveau des moutons ont retraversé la ville. Des gens émus aux larmes parce que ça leur rappelait leur enfance. Et c'est tout un pan on va pas parler de tradition, mais oui, c'est toute leur enfance qui était retrouvée à ce moment-là. Et moi, je trouve plutôt sympa d'ailleurs, à cet égard, que ça puisse continuer et que nos enfants actuellement puissent se forger ce genre de souvenirs. Même s'il y a un aspect un petit peu plus folklorique, parce qu'on sait que la plupart des moutons montent en camion, mais au moins il y a un troupeau qui traverse la ville, au moins ça permet de garder cette tradition et cet aspect vivant de l'élevage dans nos régions. À partir de là aussi, ça permet de rappeler quand même que cette transhumance, c'est pas un phénomène récent. même qu'elle soit longue, c'est-à-dire depuis la Provence jusqu'aux Alpes, ou courte, c'est un phénomène qui existe depuis extrêmement longtemps, depuis le néolithique. C'est-à-dire que les premiers éleveurs ont pratiqué des types, on parle d'estive à ce moment-là, et puis petit à petit ça se transforme en transhumance, avec des rassemblements de troupeaux, etc. Ça fait 6, 7, 8 000 ans que ça existe dans nos régions. Ça a été toujours un facteur économique extrêmement important. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais à l'époque romaine, on voit qu'il y a des représentations qui nous montrent bien l'importance du mouton, de l'élevage dans l'économie locale. C'est étonnamment un des rares éléments économiques forts qui subsistent à la chute du Claps au XVe siècle, puisque avant la chute du Claps, on était sur l'autoroute de l'Italie. À partir du moment où la montagne est tombée, bah, ça a coupé la route et le transit commercial international s'est détourné ailleurs. C'est une chute économique pour la région, mais la transhumance, elle, n'a pas besoin de la route du Claps pour passer, et c'est quelque chose qui s'est maintenu dans la région. C'est intéressant de continuer à le maintenir, oui.
Ben, tant mieux que le Claps soit tombé, on a moins de camions quand même. Je préfère des moutons aux camions, même si bon, parfois les moutons viennent en camion. Pour continuer un petit peu sur cette histoire de la transhumance, on comprend pourquoi les gens montaient en estive dans la montagne. Ça paraît évident, mais tiens, j'ai envie qu'on le dise.
Alors, sous forme de boutade, je dirais que je ne suis pas forcément le mieux placé pour répondre à
la
question.
Battez-vous ouais. Tous les trois.
Moi, j'aurais tendance à dire qu'en tant qu'archéologue... ce qui est vivant, ça ne me parle pas. Moi, c'est ce qui est mort qui me parle, forcément.
Bon, d'accord.
Mais, non, simplement, y a des contingences dues au vivant qui fait que l'été, en Provence, il fait un petit peu trop chaud, l'herbe oui. est trop sèche, et en montagne, on a une herbe de bonne qualité. Puis là, je vais laisser la parole à ceux qui savent, parce que je n'ai pas envie de dire des sottises.
Ah bah c'est, vous avez dit l'essentiel. Hein. Les troupeaux suivent l'herbe. Hein, puisque pour se nourrir, c'est des ruminants, ils mangent de l'herbe. Et quand dans le sud, il n'y a plus d'herbe, eh bien, ils vont la chercher en montagne. Et puis en hiver, ils redescendent dans le sud où là, à nouveau, il y aura de l'herbe. Juste quelques mots pour parler d'une enquête qui a été faite par les services pastoraux des Alpes et un organisme de recherche qui s'appelle IRSTEA. L'enquête pastorale qui s'est déroulée entre 2012 et 2014 montre l'importance du flux des animaux, des troupeaux transhumants qui montent principalement dans les Savoies et en Isère. Cette enquête, elle montre aussi que, par exemple, en Drôme, il y a environ 30 000 brebis dans les alpages et que 8 à 10 000 viennent du sud, hein, du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône. Donc ça, c'était il y a très longtemps, mais c'est toujours actuel. Et dans les groupes d'éleveurs, il y a ce mélange de gens du sud et de grands transhumants, on les appelle les grands transhumants, et puis d'éleveurs locaux, et que tout ça fait un bon mélange pour fonctionner en été. Voilà, donc cette enquête est assez intéressante, elle montre la vitalité de l'activité pastorale, parce que il y a tous ces cheminements d'animaux, alors bien sûr en camion, mais parce que on n'a pas le choix, qui vont donc du sud vers les Savoies, vers l'Isère principalement, un petit peu vers la Drôme, et puis on peut voir aussi des transhumances qui sont moins connues, qui vont aller des Hautes-Alpes vers la Drôme, de la Drôme vers la Savoie, de la Ardèche vers la Drôme, de la Drôme vers l'Ardèche, par exemple, des bovins de Dromois partent sur le mont Gerbier de Jonc. Voilà, il y a toute une étude qui a été faite et qui montre la vitalité, le nombre de bêtes et tout ça. J'aurais dû venir avec les chiffres, mais je les ai pas pris.
Ce sera pour l'année prochaine, alors.
Voilà, si vous voulez.
Ah, très bien. Oui, parce qu'on parle de transhumance et on parle de moutons, de brebis ici dans le cadre de cette fête, mais en fait, il y en a plein d'autres qui transhument. Voilà, les bovins, les chèvres aussi, dans nos secteurs.
Très peu de chèvres transhument dans la Drôme. Par contre, il y a des chèvres qui transhument sur les Savoies et la Haute-Savoie avec le fameux chevrotin, hein, fromage de garde qui est fait en alpage. Voilà, oui, il y a des chèvres qui transhument aussi.
Il y a aussi moins de gros élevages dans notre secteur qu'il y en a dans le sud. On est plus sur des petites fermes quand même ici dans le Diois, pour parler du Diois par exemple.
Alors la taille des troupeaux est différente effectivement entre la taille des troupeaux des grands transhumants et des éleveurs locaux. Je crois que chacun de ces éleveurs adapte la taille de leurs troupeaux au contexte de leur, du lieu, de leur siège d'exploitation. Et dans le Diwa, on va plutôt trouver des troupeaux qui sont autour de 350 brebis, sachant que dans le Diwa, il n'y a pas que le pastoralisme, mais on peut trouver des éleveurs qui font à la fois de la noix et de la brebis, de la vigne et de la brebis, de la plante aromatique et de la brebis. Donc ça explique ces différentes tailles de troupeaux. Voilà, c'est vrai, c'est, ça existe, mais je ne pense pas que ça pose aucun souci.
Je ne posais pas dans cette question dans ce sens, j'espère.
D'accord.
En tout cas. Tiens, bah, puisque l'archéologue aime les choses mortes, qu'est-ce qu'on retrouve de mort et d'intéressant autour du pastoralisme et puis, en glissant dans notre sujet sur la façon des paysages.
Alors sur les paysages, il y a énormément de choses qui sont tout à fait vivantes, puisque même si un paysage paraît toujours figé, parce qu'il se développe extrêmement lentement à l'échelle d'une vie humaine, même s'il ne faut pas oublier qu'une vie humaine, c'est de l'ordre de 80 ans et qu'une forêt, ça peut apparaître en 40 ans. Donc on peut quand même en voir les effets de son vivant. Mais sinon, ce paysage se développe relativement lentement. Il faut bien comprendre que les paysages qu'on a sous les yeux, et particulièrement dans le Diwa, c'est-à-dire avec des altitudes inférieures à 3500 mètres, on voit des alpages. Il n'y a qu'à regarder le Glandas pour les deviner au sommet. Sauf que ce ne sont pas des alpages naturels, ce sont des alpages parfaitement anthropisés qui ont été fabriqués par l'homme avec le temps. Et on sait que ce défrichement, ce déboisement démarre dès le néolithique. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui a 7 ou 8 000 ans derrière lui. J'allais dire de tout temps, mais c'est une formule. Ça fait donc 7 ou 8 000 ans que l'homme façonne son paysage. En se réservant des zones libres pour le pâturage notamment. Moutons, vaches, il ne faut pas oublier les chevaux sur le Glandas. On a aussi des pâtures qui sont destinées aux chevaux d'élevage des Templiers. Il y a
qu'est-ce
des pâturages...
Ben,
les Templiers, tout le monde connaît ça. Hein.
Oui,
ce n'est
oui.
pas uniquement les gens qui ont planqué un trésor. C'est surtout des moines-soldats qui sont chargés d'assurer la sécurité à la fois du tombeau du Christ à Jérusalem, mais surtout d'assurer la sécurité des routes permettant aux pèlerins d'aller à Jérusalem, à Rome ou ailleurs. Et pour faire ce travail-là, ce sont des moines soldats, c'est une bonne partie de cavalerie et ils ont besoin de chevaux. Le problème des chevaux, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que là c'est de nouveau du vivant, c'est pas mon truc. Mais les chevaux ont besoin de beaucoup de surface d'herbe pour subsister parce qu'ils ont un rendement digestif qui est moins important que celui des vaches ou des moutons. Et donc il y a eu des batailles homériques. En termes de concurrence économique sur le plateau du Glandas, entre notamment les chevaux des Templiers et les moutons de l'abbaye de Durbon, par exemple. Donc on voit que c'est vraiment des enjeux extrêmement forts.
Des
aussi
guerres,
au Moyen-Âge.
Même, ils se sont mis...
Entre moines tout court et moines soldats, ils n'ont peut-être pas venu aux mains, mais non, il y a de vraies concurrences économiques, il y a des procès à n'en plus finir, etc. Il y a aussi des problèmes de péage, d'ailleurs, au niveau des transhumances. Enfin bon, tout ça génère de toute façon une énorme économie. Et du coup, j'ai oublié la question d'origine.
Christian allait réagir.
Oui, on parlait justement des paysages. Alors, tu as évoqué, Jacques, effectivement, le rôle du pastoralisme depuis 8000 ans ou autre. Moi, le constat que je fais à l'heure actuelle, c'est que le paysage, tu as dit tout à l'heure qu'il évoluait de façon très lente et qu'il était à peine perceptible à l'échelle d'une vie humaine. Ce qu'on peut constater quand même quand on regarde un petit peu en arrière, c'est que ces paysages sont restés relativement stables, on va dire, depuis l'Antiquité, le Moyen-Âge et jusqu'au XIXe siècle. Et que par contre, depuis la fin du XIXe siècle, l'évolution des paysages a été extrêmement rapide. Je rappelle qu'à la fin du XIXe siècle, le Diwa, c'était plus de 30 000 habitants, le territoire de l'actuelle communauté des communes, contre 11 000 habitants aujourd'hui. Ouais. Ça veut dire très concrètement que la société industrielle qui émergeait à la fin du XIXe siècle a provoqué un exode rural. À partir du moment où cet exode rural s'est produit, Il y a beaucoup de terrains qui ont été abandonnés sur les flancs des montagnes. Et parallèlement, à partir de 1880, en gros, l'État a mis en œuvre ce qu'on appelle la politique de restauration des terrains en montagne, plus connue sous le nom de reboisement. Et ce reboisement du 19e siècle, c'est vraiment celui-là qui a façonné les paysages que nous connaissons aujourd'hui, avec un arbre qui n'est pas local, le pin noir d'Autriche, qui transforme un petit peu aujourd'hui nos forêts en forêts noires quelque part, hein, parce qu'on perd quand même l'image des paysages calcaires, comme on peut les connaître dans d'autres zones, comme l'Écosse ou autres. Et ce qui fait que la lecture, autant on peut bien lire dans le paysage des bords de route l'impact des activités agricoles anciennes, je pense au cabanon de vigne de Châtillon par exemple, je pense aux champs de Noyers ou autres, autant il n'est pas évident de lire dans le paysage l'impact du pastoralisme qui est pourtant fondamental, si ce n'est dans les alpages d'altitude. Le Glandas, bien sûr, une partie du Vercors, je pense au Trois-Becs aussi, tout proche d'ici, où là justement les travaux de Brochier par exemple ont permis de montrer que les Trois-Becs étaient exploités depuis la préhistoire. Mais en dehors de ça, on ne voit pas bien les choses. On a beaucoup de villages qui sont des villages en ruine, qui autrefois étaient des villages d'exploitants agricoles. Je pense à la zone de Trèchenu-Crayé, et notamment du plateau de Crayé. Encore qu'il y a des troupeaux qui réinvestissent les lieux et qui continuent à les entretenir. Mais voilà, on a cette problématique-là. Il y a une évolution très très forte du paysage qui s'est poursuivi après la guerre de 14 du fait qu'on avait perdu un grand nombre d'hommes dans toute la région, et puis qui a subi dans les années 50 un deuxième impact avec ce qu'on a appelé la modernisation à outrance, le boom économique d'après-guerre, qui a provoqué lui aussi une émigration des populations, et parallèlement la mise en place de nouvelles techniques agricoles, l'emploi des tracteurs, des choses comme ça ou autres, qui font que certaines zones qui étaient autrefois cultivées, qui étaient parcourues par les troupeaux et autres, à proximité même des villages ou autres, c'est des pratiques qui ont été quelque peu abandonnées. Et tout ça nous rappelle tout l'intérêt du pastoralisme aujourd'hui pour continuer à entretenir ces massifs du Diwa, cette zone du Diwa, parce que sans ce travail du pastoralisme, eh bien, on va renforcer l'apparition d'un certain nombre de risques, on va dire d'origine naturelle. Je pense à tout ce qui est incendie de forêt, mais également dans le domaine du ravinement torrentiel ou autre. Il y a un rôle fondamental qui est à jouer par les troupeaux et d'une façon plus générale par le maintien de l'agriculture dans nos zones.
C'est justement la question que j'avais envie de poser. Que risquerait-on à se laisser recouvrir de forêts ? Alors bon, on en parle souvent de la prédation qui, elle, gagnerait encore un petit peu plus de terrain. Mais sinon, Dominique, allez.
Pour rebondir quand même sur ce que disait Christian, je dirais que depuis les années 90, il y a eu toute une activité autour du redéploiement pastoral. Et donc les pastoraux ont suivi, c'était la communauté de communes du Diwa qui a lancé ça avec les premières mesures agri-environnementales pour ressortir les troupeaux. Et donc il y a eu un vrai travail pendant 20 ans, on va dire, des éleveurs pour remettre les troupeaux plus à l'extérieur, allonger la durée de pâturage dans l'année. Et effectivement, la prédation vient bousculer tout ça. Hier soir, le berger qui racontait sa vie de berger à travers
Patrice Marie
à travers ses contes, disait voilà, tous les interdits, on peut plus laisser dormir les brebis en haut, on peut pas aller dans la forêt quand il y a du brouillard, on risque. Voilà, tout ça participe un petit peu à un repli, et c'est effectivement, à mon avis, le paysage qui va être à nouveau modifié, puisque aujourd'hui, quand on monte des dossiers de travaux pour les éleveurs, il n'est pas rare qu'un éleveur dise « mais non, cette zone-là, elle est boisée, non, je ne fais pas l'investissement en clôture ou en abreuvement de troupeaux, parce que le risque est trop grand et que je ne pourrais plus l'utiliser comme il l'aurait utilisé sans prédation. » Donc voilà, il y a un vrai... C'est un vrai tournant et qui aura son impact sur le paysage. Et c'est quelque part dommage parce que il y a eu tout ce redéploiement, cette sortie des animaux plus longtemps. Et ça participait beaucoup à entretenir, à éviter la broussaille.
et puis avoir quand même de la viande, puisqu'on en parle, on parle aussi des fois de ça, qui n'est pas hors sol,
tout à fait.
Pas intensive.
Tout à fait, voilà. Même si une partie des agneaux sont produits en bergerie, les brebis sont nourries, elles, et pâturent à l'extérieur presque toute l'année. Hein, dans le Diois, la période de bergerie est très très courte, ça dépend beaucoup de la météo, mais elle peut être très très courte, et voilà. Par rapport à la viande d'agneau, juste une petite chose, j'ai vu sur le stand de la Fédération départementale ovine une liste d'éleveurs qui vend de l'agneau dans le Diois, et c'est important, il y avait aussi des recettes, voilà. Je me dis que c'est ça aussi la fête de la transhumance, se faire connaître ces éleveurs et attraper ces adresses pour pouvoir acheter de la viande ici.
En direct.
En direct.
En plus, c'était un peu ça le but. Oui. C'est donc très positif, et je voulais revenir à ma question, que risque-t-on si on est encerclé de forêts? Ça s'est vu historiquement, Jacques, une France couverte de forêts.
C'est-à-dire une France couverte de forêts, tout en même temps, sans doute pas. Et puis il y a des terrains qui ne s'y prêtent pas. Par contre, pour ce qui est du Diois, oui, ça s'est forcément vu à un moment ou un autre. Il y a des déprises et des reprises d'anthropisation, c'est-à-dire que l'homme est plus ou moins présent avec le temps. Ça dépend beaucoup des problématiques démographiques, hein, bien évidemment, avant tout, mais aussi de la relation entre l'homme et son milieu, c'est-à-dire que les deux ont une interaction ensemble. L'homme n'est pas prépondérant, le milieu non plus, c'est vraiment une interaction entre les deux. Pour ce qui est du reboisement, c'est vrai que ça peut aller très vite à partir du moment où les terres ne sont plus pâturées. Ça s'est vu par moments, on parle notamment des déprises du début du Moyen-Âge, quelques déprises aussi à la fin du Moyen-Âge, notamment pendant les guerres de religion, mais ce sont des choses qui sont relativement... c'est pas non plus une catastrophe totale. Ce qui est fait à un moment peut être défait à un moment suivant, etc. Là, je crois que les inquiétudes... j'étais hier à une réunion du comité scientifique du Parc du Vercors. Sans parler vraiment d'inquiétude, mais il y a une grande attention qui est portée à l'heure actuelle au changement climatique, parce que là on a quelques problèmes sur l'évolution des pratiques actuelles qui peuvent entraîner en effet un certain nombre de choses, et le problème n'est pas tellement la forêt, le problème c'est la gestion de l'eau qui se pose de façon de plus en plus drastique.
Alors, on parlait du fait de l'érosion notamment.
Alors avant de parler de ça, c'est simplement les précipitations, qui changent de nature, et notamment moins de neige en hiver, ça s'en est aperçu, puisqu'il y a même des décisions de fermeture de stations de sport d'hiver qui ont été prises un petit peu vite.
Plus d'eau au mois de juin.
Et plus d'eau au mois de juin. Alors ça a l'air de rien, parce qu'on se dit globalement sur l'année il tombe toujours la même quantité, oui, mais elle ne tombe pas de la même façon, et l'eau d'hiver percole tranquillement, la neige fond plus lentement qu'un orage ne passe, et du coup elle percole, et le karst, c'est-à-dire le massif calcaire, joue pleinement son rôle. Donc à la fois on a des herbes qui sont plus gorgées d'eau, plus grasses, qui permettent d'ailleurs aux moutons de boire en même temps qu'ils mangent, ce qui leur permet aussi de survivre dans des environnements où il n'y a pas de mares, de ruisseaux, etc. Enfin, plus facilement, il y aura peut-être un complément qui sera apporté là-dessus. Moi, c'est ce que j'en ai compris. Mais ça veut dire aussi, pour les populations d'en dessous, à terme, le fait que si l'eau ne percole plus, ça veut dire que nos ruisseaux, nous, en vallée, ne sont plus alimentés. Et ça veut dire que la Méreuse, par exemple, qui coule de façon pérenne, on peut imaginer que dans quelques années, dans quelques dizaines d'années, elle soit sèche l'été et qu'elle coule à flot au printemps à peu près. Mais totalement sèche. Et je ne sais pas si on s'imagine à quel point ça peut changer nos modes de vie, surtout s'il se passe la même chose pour la source qui alimente Die en eau potable. Une source.
Oui, rappelons-le.
Pour tout dire, ça c'est précisément les percolations du massif karstique. Si ça s'arrête, on n'a plus rien à boire. C'est aussi simple que ça. Donc là, c'est des enjeux climatiques et qui peuvent être aggravés ou légèrement ralentis par les activités humaines sur ces plateaux, et notamment par le maintien du pastoralisme. Et là, je pense que je vais me faire incendier sur deux, trois notions que j'ai pris avec un petit peu de rapidité.
En tout cas, on a sauvé le pastoralisme avec les climato-sceptiques, c'est super. Dominique, un complément, alors une correction?
Je ne vais surtout pas incendier personne, c'est pas mon style. Je dirais juste par rapport aux troupeaux de brebis qui, par le passé, n'avaient pas d'eau ou que très peu d'eau sur la réserve des hauts plateaux du Vercors, pour citer ce lieu-là. Bien sûr, une brebis survit quand elle ne boit pas, parce qu'il y a un phénomène d'osmose, c'est-à-dire que les bergers donnent du sel aux brebis, et la concentration en sel dans l'alimentation permet de valoriser toute l'eau des plantes et de conserver de l'eau. Elle ne meurt pas, c'est sûr. Ça ne l'empêche pas d'avoir soif. Et quand on parle de bien-être animal, voilà, la soif, quand on la connaît parce qu'on a oublié sa gourde et qu'on part en montagne, eh ben, on sait que c'est difficile. Donc, imaginez des brebis qui ont soif pendant 3 mois, c'est quand même pas le bien-être animal. Et puis, aujourd'hui, pour l'abreuvement des troupeaux sur ces zones karstiques, il existe des équipements qui s'appellent des impluviums qui récupèrent l'eau des précipitations, que ce soit la pluie ou la neige, et elle est redistribuée après de manière très calculée par les éleveurs, hein, c'est-à-dire avec des flotteurs, c'est-à-dire pour ne pas en gaspiller quelques gouttes. Donc voilà, il existe des équipements qui permettent ça, et les brebis s'en portent mieux, le berger s'en porte mieux, et on aurait pu demander le témoignage de Jean Gauthier qui a gardé sur Glandas pendant de nombreuses années et qui a gardé avant l'arrivée des impluviums de Glandas et qui a gardé après. C'est le jour et la nuit pour le travail du berger, c'est le jour et la nuit pour les performances des brebis. Voilà, et c'est simplement de tête, on va dire, d'un côté 300 mètres carrés de pluviométrie qui est soustraite
à la pâture générale.
Au cheminement de l'eau dans le karst.
Ah oui, aussi.
Bah oui, parce que ça veut dire celle-ci, on la prend et elle n'ira pas dans la terre. Mais c'est très très intéressant pour le troupeau, pour le berger et pour les performances. Voilà, c'est pour ça que j'avais les yeux qui papillotaient un peu.
Christian ?
Oui, moi je trouve que Dominique me permet de faire une bonne transition en évoquant les impluviums, puisque tu nous interrogeais sur les risques quelque part. Bon, Jacques a parlé de son point de vue en tant que scientifique par rapport à sa réunion du comité scientifique du parc. Moi, il y a un autre aspect que j'ai à peine évoqué tout à l'heure, mais je peux y revenir en deux mots. Avec les conditions climatiques actuelles, plus le reboisement qui a été réalisé à la fin du 19e siècle et au milieu du 20e, dans les années 30-35, on a maintenant des essences, des arbres sur nos montagnes qui sont des résineux, des pins noirs. Donc un arbre qui est quand même sensible au feu. À partir du moment où on constate qu'il y a une certaine déprise de territoires agricoles qui s'embroussaillent près des aménagements anthropiques, que ce soit les maisons individuelles, le bord des voies de chemin de fer, le bois des zones de circulation, le moindre départ de feu peut directement passer dans ces zones embroussaillées, prendre un petit peu d'élan, j'allais dire, pour passer après dans les massifs eux-mêmes. Donc ça, c'est un risque avec le réchauffement climatique et donc des périodes de sécheresse qui risquent de s'installer, qui peut rendre beaucoup plus sensibles qu'aujourd'hui les forêts du Diwa à ce risque-là. On en a fait l'expérience pendant l'été 2003. Rappelez-vous, 2003, il n'a pas plu du mois de février jusqu'au mois de septembre. Et tous les jours, on avait pas loin de 5-6 départs de feux de forêt dans la région, dont certains qui ont parcouru plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'hectares du côté de Glandage. Mais là, c'est pareil, c'est même combat, j'allais dire, avec les éleveurs, puisqu'on a évoqué tout à l'heure leur rôle d'entretien des sols, entretien de zones qui sont des zones de coupure. Parce qu'un des risques que nous avons actuellement, c'est qu'on avait des massifs forestiers qui étaient bien délimités sur les pentes vraiment des montagnes, mais et des vallées qui les séparaient, qui étaient cultivées à mi-pente. Or, ces vallées n'étant plus cultivées à mi-pente, la forêt continue à progresser de façon régulière sur l'ensemble du Diwa. Et donc, on assiste maintenant à une continuité entre ces différents massifs. Et en cas de sinistre majeur, continuité, c'est-à-dire le feu peut continuer à propager, nécessite des moyens beaucoup plus importants. D'où l'utilité des politiques de prévention, notamment celles qu'on peut faire en partenariat intelligent avec les éleveurs. Dominique évoquait les impluviums. Je pense à l'Échandiwa, à l'impluvium par exemple de la montagne du Puy. Là, c'est une zone qui, pour moi, est emblématique, puisque au sommet de la montagne du Puy, il y a une aire de parapente. Il y a bien sûr des troupeaux qui pâturent dans cette montagne et qui la rendent moins sensible au feu, parce que c'est un endroit qui est très souvent impacté quand même par les coups de foudre. Et pour régler une partie du problème, nous avons aménagé un gros impluvium dans cette zone qui permet à la fois d'abreuver les troupeaux qui y séjournent et d'autre part de constituer sur place une réserve d'eau pour combattre les départs de feu. Donc là, c'est un vrai partenariat qui va dans le sens de la défense quelque part de l'élevage, mais qui va également dans le sens de la sécurité au sens général de notre région.
Bah, je pense que là, on a bien expliqué pourquoi est-ce que ces paysages étaient utiles, en tout cas à être préservés tels qu'ils sont, voire entretenus, voire développés encore. C'est clair, quand on arrive dans une pâture, le feu s'arrête.
Exactement.
Bah voilà. Et puis après, on l'évoquait déjà l'année dernière, notamment quand on parlait de la problématique de la prédation. Mais c'est ici une station de ski, un autre endroit, des zones de randonnée, tout un tas d'espaces qui sont utilisés dans l'activité touristique notamment, et pour le loisir qui serait plus accessible. Peut-être pour terminer cette première table ronde que vous avez accepté de faire au pied levé avec nous, l'ADEME, Dominique, qu'est-ce que vous proposez sur votre stand au public, là, jusqu'à demain, même demain encore
Jusqu'à ce soir. Ah. Jusqu'à ce soir, on propose sur notre stand un journal qui s'appelle Le Pasto, qui est le journal des petits bergers, à travers lequel les services pastoraux des Alpes du Nord, on va dire, hein, Haute-Savoie, Savoie, Isère et Drôme, travaillent ensemble pour parler aux enfants de différents sujets. Le Pasto de cette année, c'est un pasto sur le chien de protection et chien de conduite, et on essaie d'apporter des éléments. L'an dernier, c'était les produits pastoraux, les fromages, la viande, comment ça fonctionne, tout ça. Il y a ça, il y a la possibilité de nous rencontrer, il y a la proposition de faire une balade en montagne jeudi 23, je crois que c'est jeudi 23, d'accompagner un éleveur du Diwa qui monte son troupeau. Donc,
c'est sur Jokou, ça
hein? Non, c'est pas sur Jokou, ça a changé. Ça fait 2-3 ans que c'est plus sur Jokou, mais là c'est sur Serre de Montuet. On va aller sur le Vercors. Vous savez que la fête de la transhumance, c'est le Diwa et le Vercors, et donc c'est un éleveur de Saint-Julien-en-Quin qu'on va pouvoir accompagner et discuter avec lui, le berger, à l'arrivée. Qu'est-ce qu'on propose sur notre stand? De parler de pastoralisme.
Merci Dominique pour l'ADEME. Pour le musée cet après-midi, puisque là, il est quand même déjà 15h.
Donc il y a une conférence qui était en cours au musée qui va se terminer à 15h30, qui sera suivie par un concert extrêmement festif et normalement mobile au travers des salles du musée. Donc c'est encore une manière de découvrir le musée dit dans d'autres circonstances. Et puis évidemment, des divers ateliers pour adultes, pour enfants qui sont prévus tout au long de la journée.
Quels sont-ils, ces ateliers? Allez, on les décrit vite fait. Ah, il n'a pas sa liste.
J'ai pas ma liste sur moi, non.
Bon.
Dessine-moi un mouton, notamment, oui, pour les enfants.
Bon, c'était un piège. On ira enquêter. Vous avez qu'à aller au musée si vous nous écoutez en direct pour aller participer à ces ateliers. Christian, allez, le mot de la fin. Non, Dominique,
non, Dominique vous laissez.
Je voulais juste dire que là, à 15h30, il va y avoir les éleveurs qui parlent de leur paysage. Là, on en a parlé de manière.
On l'évoquait.
Au théâtre, on en a parlé de manière générale, mais là, ce sont deux éleveurs qui vont parler de leur paysage et à leur manière. Je pense que ça peut être très, très intéressant. Et puis, juste encore, si vous avez le temps, prenez le temps de voter pour le concours photo, pour le paysage que vous préférez. Voilà, voilà.
Alors je voulais rajouter sur le discours autour du paysage et des éleveurs. Il y a aussi une petite expo photo qui tourne en boucle au musée, donc à partir de 15h30. Donc c'est pas du tout en concurrence, en complément, puisqu'elle va rester jusqu'à 18h les rapports entre l'élevage, le pâturage et la peinture, puis la photo, depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. C'est une expo qui est extrêmement intéressante et qui montre bien aussi tout ce que notre culture doit à ce pastoralisme et tout ce qui est profondément enfoncé dans notre inconscient collectif à partir de ça.
Christian?
Alors pour conclure, moi j'invite bien sûr tous les gens qui sont à Die aujourd'hui à consulter attentivement le programme de la fête, parce qu'il y a aussi des manifestations au Pestel, etc. Donc il est important de les citer. Certains films sont particulièrement intéressants. Et puis je terminerai en disant toute la satisfaction que j'ai eue de constater que ce matin, à l'inauguration officielle de la fête de la transhumance, outre les hommes politiques locaux, ceux de Die et de la communauté de communes qui soutiennent notre manifestation depuis de nombreuses années, nous avions le vice-président du conseil départemental en charge de l'agriculture qui est venu. C'est quelque chose qui est intéressant.
Exceptionnel même, non ?
D'intéressant.
Je me le garde pour moi.
D'intéressant, d'autant que nous avions également la présence d'un vice-président du parc en charge de la culture. Et là, c'est une première. Alors, à voir tous ces hommes politiques qui sont venus apporter leur soutien au pastoralisme et leur soutien également à cette fête qui, au-delà du soutien au pastoralisme, permet également de développer d'autres activités économiques. Je pense notamment au tourisme ou autre. Je pense qu'il faut rebondir sur cette dynamique pour qu'elle ne reste pas seulement des paroles, mais qu'on passe aux actes. Et quand je parle d'actes, je constate que depuis le début de l'année, toutes les associations culturelles, essentiellement, mais pas seulement, ont de grosses difficultés budgétaires avec un certain nombre de changements qui interviennent dans les dotations de l'État, de la région, des départements, etc. Je pense qu'il appartient à l'ensemble des citoyens de ce pays de se mobiliser pour faire entendre justement à tous ces responsables que nous sommes nous aussi des acteurs, que nous avons des messages à faire passer et que nous sommes convaincus qu'il ne faut pas séparer les choses. L'économie, c'est pas seulement une affaire de spécialistes, c'est aussi une affaire des hommes et des femmes qui habitent ce pays, parce que c'est quand même leur quotidien, c'est ce qui les fait vivre. Mais ça n'empêche pas qu'en plus de l'économie, on nourrisse également les esprits. Si on forme des citoyens responsables en leur permettant de découvrir la diversité du monde qui nous entoure, c'est comme ça qu'on luttera de façon efficace contre les extrémismes de toute nature qui menace la tranquillité de la planète et de nos sociétés en particulier. Merci donc Radio Diwa de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer sur ces thématiques.
Merci à tous les trois. Merci de rappeler que évidemment sans culture, eh ben on s'ennuierait quand même un peu. Culture qui d'ailleurs permet la fusion d'une part d'une activité agricole, d'autre part de tous ces hébergeurs qui sont bien contents d'avoir plein de gens ce week-end, de tout un tas d'artisans sur les marchés. Eh bien écoutez, voilà, je vous remercie, je vous laisse retourner à vos différentes activités, le stand de l'ADEME, poursuivre cette gestion générale de la fête Christian Rey, et puis le musée de Die pour Jacques Planchon. On va passer un morceau de musique et puis on passe à la suite sur RDIWA avec, je vais pas le dire puisqu'on sait pas qui arrive d'ailleurs. Surprise.
Les chiffres 3
voyelles
U
consonne
T
3
su
B les chiffres 3
voyelles
U
consonne
T
3
su
B 1 2 3 4 3.